Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs.
Vous écoutez pour la première fois...
L'instant VIP.
Ça ose !
Ce merdier va vite nous dépasser.
Bienvenue sur...
Auto Radio.
Et je compte sur vous pour le compte en bourre vers l'extase.
C'est de la bombe, bébé. L'instant VIP.
Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver après cette petite pause printanière. On espère que vous êtes très en forme, là, dans toute la cube, et que vous nous écoutez, bien sûr. Aujourd'hui, émission spéciale, petite parenthèse, avec un invité qui n'est pas forcément
musicien
professionnel, mais qui a énormément de choses à nous dire.
Qui est un artiste, quand même, d'ailleurs.
Il est artiste, bien sûr, il est artiste, mais ça, on va le découvrir un petit peu plus tard. En tout cas, il s'appelle Laurent Eliasevitch. Il travaille à l'ancien Pôle emploi, c'est-à-dire France Travail. Et il est venu tout spécialement nous parler d'un dispositif qui s'appelle Erasmus+. Bonjour Laurent.
Bonjour Lily.
Tu vas bien?
Ça va. Ravi d'être ici.
Bon, bah super. Est-ce que tu peux tout d'abord un petit peu te présenter à nos auditeurs de l'Instant VIP?
Ah bah écoute, donc tu as déjà dévoilé le sujet, je travaille à France Travail, je suis à Bordeaux depuis une bonne dizaine d'années, je travaille à la direction régionale de France Travail et par ailleurs j'ai des activités, alors est-ce que je suis artiste pour autant? En tout cas j'ai des activités de théâtre. Depuis des années, je fais du théâtre en amateur. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs, si ça leur dit, à venir les 9, 10 et 11 mai au Théâtre en Miettes à Bègles. Ce sera notre troisième année à la troupe dont je fais partie, qui s'appelle les Nabac. Et on va jouer une pièce qui s'appelle Scène de chasse en Bavière. Donc, 9, 10, 11 mai. Voilà.
Très bien, donc une pièce de Martin Sperr, hein, c'est ce que tu me disais, je crois.
C'est ça.
Mais écoutez, l'invitation est lancée, ça a l'air super en tout cas, c'est sur la tolérance, donc on vous invite effectivement tous à venir. Alors, on en reparlera peut-être plus tard, mais on va d'abord se concentrer un petit peu sur cette fameuse mission qui est Erasmus+. Bon, tu nous as parlé, t'as dit des petits mots là, ou des gros mots, direction régionale. Est-ce que tu peux d'abord un petit peu nous dire ce que tu fais à Pôle emploi?
Bien sûr.
France Travail.
Alors, France Travail. Oui, alors juste une petite parenthèse, effectivement, Pôle emploi est devenu France Travail depuis presque un an, là, je crois. Vous allez me dire si je me trompe.
Janvier 23, 4.
Janvier 24. C'est effectivement l'ancien Pôle emploi que bon de gens connaissent déjà, je pense. Enfin, j'espère pas trop non plus. L'idée, c'est toujours quand même d'avoir trouvé une activité et de pouvoir se débrouiller. Mais bon, c'est quand même très très utile et on peut d'ailleurs saluer Jacques Chirac qui a créé en fait en 1967 Pôle emploi. Enfin, à l'époque, c'était l'ANPE, donc, qui ensuite, en 2008, a fusionné avec les ACEDIC pour devenir donc Pôle emploi. Donc moi, je me posais juste une petite question. Enfin, on ne va pas rester des heures sur l'historique, mais est-ce qu'on a toujours comme ça aidé les personnes qui étaient privées d'emploi? Est-ce qu'il y avait quelque chose avant 67? Est-ce que Jacques Chirac était vraiment... La pierre fondatrice, enfin, est-ce que c'est vraiment lui qui a finalement décidé un jour d'aider les demandeurs d'emploi? Parce qu'en plus, il était plutôt de droite. Aujourd'hui, ça paraît un peu étonnant, mais...
Alors, sans rentrer dans les classifications politiques...
Bien sûr.
Je crois que, Jacques Chirac avait une fibre sociale, issue du gaullisme, et que cette question-là effectivement pouvait avoir une certaine résonance chez lui. C'est vraiment le premier grand, la première grande initiative effectivement pour structurer une organisation qui accompagne les personnes au chômage. sachant que peu de temps après, il y avait le premier grand choc pétrolier avec une montée très importante du chômage. Donc c'est vrai que l'approche sociale, étatique, qui caractérise souvent la France, a fait que a été mise en place la NPE, le pendant à CEDIC s'occupant effectivement de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, et donc que cette volonté d'accompagner a été évidemment toujours quelque chose, une sorte de fil rouge de la politique sociale française, avec évidemment des évolutions très fortes en lien avec la société, avec les technologies. Aujourd'hui, on en est maintenant à France Travail à travailler avec l'intelligence artificielle. Les plus anciens d'entre nous vont se rappeler des annonces, des offres d'emploi qui étaient épinglées sur les murs des agences locales. Donc voilà, c'est effectivement, ça a traversé ces décennies-là, avec toujours ce souci d'accompagner. Et France Travail, la mutation de l'organisation Pôle emploi à France Travail, suit également une volonté avec la loi sur le plein emploi d'aller au cœur de l'accompagnement de tous les publics qui peut-être jusque-là étaient assez invisibles ou invisibilisés par rapport à l'accompagnement de France Travail. Et c'est pourquoi aujourd'hui France Travail est au cœur d'un réseau qu'on appelle le réseau pour l'emploi, avec ses partenaires, des partenaires qui sont les missions locales, qui sont ce qu'on appelle Cap Emploi, qui s'occupent des demandeurs d'emploi en situation de handicap, et tout ça sous la houlette de la préfecture, de la région, voilà, qui sont en fait toute une dynamique partenariale au service du plus grand nombre de demandeurs d'emploi ou de personnes qu'il s'agit d'accompagner.
D'accord. C'est vrai que là, bon, je vois qu'en mars, par exemple, 1936, il y avait 864 000 personnes au chômage. Bon, comment est-ce qu'ils faisaient leurs statistiques ? C'est encore une autre question. Mais et on estimait d'ailleurs le taux de chômage à l'époque quand même de 10%, donc c'était pas rien. Et je me pose la question, est-ce que ces gens-là étaient sans le sou, finalement, pour ceux qui étaient en catégorie A, dit-on ?
Oui, immédiatement disponible à la recherche d'emploi. Le truc, c'est que moi, jusque-là, la seule chose que je peux, en remontant à 1936, la seule chose que je peux te dire, c'est surtout que 1936, c'est l'arrivée du Front populaire. C'est l'arrivée de gouvernements de gauche, effectivement, à l'époque, qui ont souhaité développer cette politique sociale. Alors après, comparaison n'est pas raison, évidemment, hein, le contexte était très différent. Les modalités d'accompagnement étaient très différentes. Et donc, c'est ensuite difficile de pouvoir, si tu veux, faire juste une évolution linéaire entre ce qui s'est passé en 1936 et aujourd'hui.
Bien sûr. Mais donc là, on voit en 1936, on évaluait le taux de chômage à 10%. Aujourd'hui, tu sais à combien on est ?
Bon, on est sous la barre des 8%, simplement. Mais par un effet aussi mécanique, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a l'inscription obligatoire de beaucoup de publics qui jusque-là étaient passés en invisibilité au regard de l'inscription au service public de l'emploi. Donc mécaniquement, le chômage va augmenter. Donc voilà.
C'est-à-dire que maintenant, si par exemple on travaille à 80%, il faut s'inscrire au chômage
Il faut effectivement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les bénéficiaires du RSA, beaucoup de personnes qui jusque-là ne souhaitaient pas ou passaient à côté de cette inscription auprès du service public de l'emploi, sachant que France Travail n'est pas la structure qui va s'occuper de tout. Les demandeurs d'emploi, justement. C'est-à-dire que l'inscription.
Ah oui,
est
ça se complexifie, attention.
L'inscription.
Maintenant, vous prenez
aussi
en charge les RSistes, ou je ne sais pas comment vous les appelez.
Alors, pas les RSistes, les bénéficiaires du RSA.
Bénéficiaires du RSA.
Ce qu'on appelle en bon jargon les BRSA. et en fait.
Champion des sigles.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme beaucoup de métiers qui ont leur
oui,
propre
comme
glossaire d'abréviation. Mais en fait, France Travail va être. Au cœur, au niveau de l'inscription, mais ensuite, si tu veux, il va y avoir, au regard du profil des personnes qui sont inscrites, un dispatching sur, bah, par exemple, les missions locales, Cap emploi, en fonction des profils, de certains critères, notamment d'âge, mais pas seulement, avec l'idée que certaines structures vont être plus pertinentes pour accompagner les demandeurs d'emploi.
D'accord, mais voilà. L'interlocuteur principal, c'est France Travail.
C'est-à-dire qu'il y a une inscription, effectivement, qui se fait avec le conseiller. On ne va pas rentrer dans d'autres sigles, mais effectivement, il y a un premier entretien, effectivement.
Juste pour préciser, le taux de chômage en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui est à 6,5% pardon, et en France à 7,1%. Et vous retrouvez des statistiques sur l'excellent site Observatoire de l'emploi dans Nouvelle-Aquitaine. Je vous incite à aller voir.
Fait par Émeric Perrand. Donc, parce qu'en fait, il travaille aussi à France Travail, pour tout vous dire. Voilà, notre réalisateur. ok. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais exactement dans cette direction régionale ?
Ah, j'ai cru que tu allais dire dans cette galère. donc, moi, en fait, je m'occupe aux côtés du directeur de la communication et de l'international. Je
Vincent
m'occupe, Vincent Pousse, c'est ça. Je m'occupe effectivement de la partie internationale, c'est-à-dire que mon activité consiste en plusieurs types de d'activités, justement, à la fois coordonner des dispositifs, justement ce pourquoi je suis là aujourd'hui, je pense, c'est-à-dire des dispositifs qui reposent sur le programme Erasmus+, et donc j'aurai tout loisir de pouvoir développer là, maintenant. J'organise aussi ou j'anime un réseau au sein des agences locales et des directions territoriales, un réseau de référents à l'international, qui sont donc des conseillers à l'emploi ou bien des chargés de mission en direction territoriale, qui sont, disons, mes interlocuteurs privilégiés en termes de vecteurs d'information auprès de leurs collectifs respectifs, en termes d'appui auprès de leurs collègues dans les agences locales pour mettre en œuvre justement ces actions de mobilité. Je suis aussi un interlocuteur d'un, mais j'aurai là aussi le loisir de développer ça, d'une autre partie, d'un autre type de prestations sur l'international qui est prise en charge par des conseillers dédiés à 100%, qui sont les équipes mobilité internationale, dont une d'entre elles, il y en a 7 en France, dont une d'entre elles est à Bordeaux.
Très bien. Et sinon, est-ce que ton travail a un nom ou pas ?
Je suis le travail. Non, il n'y a pas forcément de nom.
Par exemple,
c'est le chargé de relations internationales.
D'accord, si très bien.
Voilà.
Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Erasmus+. Donc, on se doute tous que ça parle un petit peu d'Erasmus, donc des gens qui veulent peut-être aller poursuivre leurs études ailleurs ou peut-être autre chose, chercher du travail ailleurs. Alors, il s'agit de quoi exactement ?
Alors, merci Lily de me tendre la perche comme ça, parce qu'effectivement, Erasmus+, alors c'est quoi ? C'est déjà un programme européen. Donc, c'est une des...
On ne peut pas partir en Inde avec Erasmus+, par exemple.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que... Pour ce qui concerne les demandeurs d'emploi en tant que tels, la zone européenne est la zone de prédilection pour pouvoir partir. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? En fait, France Travail, et avant Pôle emploi et avant la NPE, a des obligations internationales, c'est-à-dire européennes et internationales. Européennes surtout avec ce qu'on appelle EURES, qui est le réseau en Europe des services publics de l'emploi, est un acte fait du service public de l'emploi, un acteur important de la politique de l'emploi en Europe. Et donc, à ce titre-là, nous développons un certain nombre de relations avec nos homologues, service public de l'emploi en Europe. À côté de ça, au niveau international, nous avons une politique de coopération technique avec des pays qui ont des accords avec la France et pour lesquels, lorsque se pose une question sur l'emploi, eh bien, on va faire appel à des experts internes à France Travail qui vont partir pour des missions de coopération, d'appui aux différents pays. Et donc Erasmus, ça fait partie de l'offre de service qu'on appelle l'offre de service mobilité internationale. Et elle repose sur deux piliers. Un premier pilier qui est le pilier un peu historique, qui est d'accompagner les demandeurs d'emploi pour s'établir à l'étranger. Et ça, c'est un réseau de conseillers à l'emploi, de conseillers de France Travail, mais dédié, comme je le disais tout à l'heure, à ce type de prestations. La prestation s'appelant Active International.
D'accord. Alors, juste une petite question, parce que je me mets dans la peau de quelqu'un qui cherche un emploi en France. Il se dit, mais est-ce que je suis sûr? Parce que, bon, changer de pays, pourquoi pas, mais est-ce qu'on trouve déjà un emploi depuis la France à l'étranger, ou alors est-ce qu'on part sur place pour chercher depuis l'étranger?
Non, on trouve... Alors, les deux sont possibles, mais disons que, justement, via le réseau EURES, en fait, EURES va compiler toutes les offres d'emploi de tous les pays qui sont membres du dispositif EURES, ou du réseau EURES, c'est-à-dire une trentaine de pays européens qui ont comme point commun de mettre leurs offres d'emploi à la disposition de tous les demandeurs d'emploi de tous ces pays-là. Donc, un demandeur d'emploi français peut très bien, sur le réseau EURES, E-U-R-E-S, c'est un site, mettre son CV, de la même manière qu'un employeur autrichien peut mettre une offre d'emploi concernant son entreprise et que tout le monde peut effectivement postuler à cette offre d'emploi.
Donc, est-ce que tout le monde peut se rendre sur un site qui s'appelle eures.com ou .fr, je ne sais pas, ou .eu
Oui, c'est ça. Bah, il suffit de taper sur son moteur de recherche eures et on tombera sur le site eures qui est écrit dans toutes les langues de l'Union européenne. Donc, il n'y a aucun problème. On y accède très facilement.
Il y a beaucoup d'offres ?
Il y a environ 2 millions d'offres.
Ah oui, c'est conséquent.
Il y a beaucoup d'offres. Et c'est quelque chose qui est vraiment une... Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ce site EURES. Parce qu'il y a les offres, il y a la possibilité de mettre son CV, mais il y a aussi la possibilité d'entrer en contact avec des conseillers des services publics de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction des pays... Si on recherche un contact sur l'Allemagne, sur l'Autriche, l'Italie, etc., la République tchèque, on a la possibilité de rentrer en contact avec des conseillers EURES. Ce sont justement des conseillers des services publics de l'emploi dont l'activité est à 50% au moins dédiée à cette transparence du marché du travail au niveau européen. Et donc, on peut très bien rentrer en contact, demander un certain nombre d'informations sur le pays envisagé.
D'accord, très bien. C'était
juste pour dire qu'il y avait donc, mais on pourra développer après, un premier pilier qui était l'accompagnement au projet d'installation à l'étranger, et un deuxième pilier pour les personnes, et c'est ça Erasmus, pour les personnes qui ne souhaitent pas aller à l'étranger s'installer, souhaitent retrouver du boulot chez eux, sur leur propre territoire local, régional, mais qui vont partir, grâce à nous, si j'ose dire, pour faire un stage en entreprise dans un des pays membres du programme Erasmus.
Un stage non rémunéré ?
Alors, un stage non rémunéré, mais les personnes qui sont indemnisées vont conserver leur indemnisation, ou les personnes non indemnisées vont pouvoir, mais ça on peut rentrer un peu plus tard dans le détail, vont pouvoir avoir une rémunération France Travail, qu'on appelle la RFFT, voilà, autre sigle, pour justement, sachant que par ailleurs, les gros postes de dépenses pour ces jours-là sont pris en charge par France Travail ou par la région. Ça dépend, comme je le disais, on a deux programmes, plus la subvention Erasmus.
Bien, mais écoute, après la petite musique que va nous trouver Émeric, tu nous expliqueras donc quel est l'intérêt justement de trouver un stage à l'étranger quand on n'a pas de travail en France.
Ok. Et du coup, juste, j'avais oublié de présenter notre premier artiste que j'avais lancé au départ, c'était Hendrik Airways, d'excellente artiste. Et là, on part sur un groupe marseillais, les Raspigaus.
ma brise en dorée. Il faut s'échapper, s'échapper loin. Aller voir la réalité, la toucher de mes mains. Bouger,
aller voir ailleurs si j'y suis.
Sortir de ma brise en dorée. Aller voir ailleurs comment on vit. Vérifier sur place tout ce qu'on nous a dit. Sans regret détacher les amarres. Partir tous les îles de côté un moment sans réfléchir. En France on est beaucoup trop protégé par les principes de vie trop stéréotypés. Certes il y a un grand choix d'avantages. Le RMI tous les mois nous tient sages, nous tient cloués. Pas envie de bouger, pas envie de s'emmerder comme beaucoup trop l'ont fait. Et du respect et de l'originalité, on ne peut pas passer notre vie à la gagner. Mais est-il possible de se donner les moyens de changer radicalement son quotidien? Style se casser très loin sans rien se demander. La réponse toute seule m'a pas. S'échapper, s'échapper loin. Aller voir la réalité, la toucher des mains. Bouge,
aller voir ailleurs si j'y suis.
Sortir de ma prison dorée, il faut s'échapper, s'échapper loin. Aller voir la réalité, la toucher de mes mains. Bouge,
aller voir ailleurs si j'y suis.
Sortir de ma prison dorée, même la briser sans hésiter, sans échapper. Oser passer, aller voir de l'autre côté et se jeter dans un autre pays. Essayer de s'adapter, essayer un nouveau style de vie. Changer sa manière de parler, changer son vocabulaire et sa façon de penser. Repenser des choses oubliées ou perdues. Redonner un sens à ce qu'on ne comprenait plus. Mais pourquoi, mais quand, mais où, mais comment faire? Ça demande une organisation régulière et prolongée. Où trouver la monnaie, travailler, tout mettre en œuvre pour arriver à s'échapper, s'échapper loin. Aller voir la réalité, la toucher des mains. Bouge,
aller voir ailleurs, c'est plié.
Sortir de sa prison dorée, il faut s'échapper, s'échapper loin. Aller voir la réalité, la toucher de mes mains. Bouge,
aller voir ailleurs si j'y suis.
Sortir de sa prison dorée. À se laisser aller à la dérive, dérive d'un autre pays. Aussi lointain soit-il, on ne regrette jamais l'exil. On ne doit pas regretter non plus d'avoir abandonné tout son vécu. Pour le savoir, il faut aller loin d'ici. Moi, je n'ai jamais réussi à m'échapper loin. Aller voir la réalité, la toucher de mes mains. Bouge,
aller voir ailleurs si j'y suis.
Sortir de ma prison dorée, il faut s'échapper, s'échapper loin. Aller voir la réalité, la toucher de mes mains. Bouge,
aller voir ailleurs si j'y suis.
Sortir de ma prison dorée.
Ah, il n'y a plus de jingle, bon.
Et non, il a disparu, quelqu'un me l'a effacé, faudra le remettre, là, je suis désolé, on n'a pas notre relance. Je le cherche, mais...
Bon, mais le méchant voleur de jingle est prié de nous rendre notre bien, s'il vous plaît. Bien, mais écoutez, au cas où vous n'auriez pas compris, nous sommes toujours sur l'Instant VIP, sur O2 Radio 91.3, la radio des Hautes-Garonne. On espère que vous allez bien. Nous sommes avec Laurent Eliasevitch de France Travail. Il travaille en fait à l'international pour un dispositif qui s'appelle Erasmus+, dont il est en train de nous parler. Il est en train d'évoquer en fait les différents volets en fait de ce dispositif. Et là, notamment, nous parlions en fait de la possibilité pour un demandeur d'emploi français de partir à l'étranger afin d'y faire un stage. Donc, Laurent, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'on dit souvent, quand on porte des fardeaux, quand on a des problèmes, si on part à quoi qu'on fasse ou qu'on aille, si on, c'est pas la peine d'essayer de fuir parce que on va porter tout ça avec nous, quoi. Il faut savoir que la perte d'un emploi, c'est quand même quelque chose qui est dur à vivre. Hein, c'est source de problèmes psychologiques.
Alors, Lily, c'est la deuxième fois que tu me tends une perche et qui est tout à fait pertinente dans la mesure où effectivement, souvent, alors des personnes, alors c'est plus pour s'expatrier, des personnes pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, ce qui est faux, ce qui est faux. Et en tout cas, pour partir à l'étranger, ce type de motivation n'est jamais bonne. Parce qu'effectivement, les problèmes qu'on peut rencontrer dans son quotidien ne s'arrêtent pas à la frontière. Donc, il y a heureusement beaucoup d'autres raisons, beaucoup d'autres motivations positives pour lesquelles, alors soit on peut partir, essayer de trouver un travail à l'étranger, mais surtout, Partir pour faire ces fameux stages dans une structure d'accueil en lien avec son projet professionnel. C'est-à-dire que France Travail Nouvelle-Aquitaine a deux dispositifs principaux pour nos demandeurs d'emploi. L'un s'appelle, et les deux reposent sur le programme Erasmus. L'un s'appelle Tremplin pour l'emploi. C'est le dispositif de France Travail au niveau national et donc qui est mise en œuvre par les directions régionales France Travail et mise en œuvre opérationnellement par les agences locales. Et l'autre, c'est le dispositif Bagage, le dispositif Erasmus de la région Nouvelle-Aquitaine, avec laquelle nous sommes en partenariat, ainsi que les missions locales. Donc ces deux dispositifs se ressemblent beaucoup sur le fond. Après, il y a des subtilités sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir.
Donc Tremplin pour l'emploi au Bagage. Et donc, le fait de pouvoir faire un stage, c'est...
Bah, ça permet justement...
C'est dans les deux ou...
Oui, oui, tout D'accord. à fait. Tout okay. à fait. Ah, oui, en fait on va
ça
proposer...
Ça se ramifie.
On va proposer, avec ces deux dispositifs, des séjours, des stages en structure d'accueil. Je fais exprès de ne pas dire entreprise, parce que ça peut être des entreprises du secteur marchand,
mais associations,
d'autres structures,
aussi.
Exactement. De 2 mois, 3 mois ou 6 mois dans Tremplin pour l'emploi, de 3 mois ou 6 mois dans Bagage, et nous prenons en charge, nous, France Travail, avec Tremplin pour l'emploi et la région Nouvelle-Aquitaine pour Bagage, nous prenons en charge les principaux postes de dépenses. C'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi qui veut faire ces dispositifs-là, qui veut candidater, se verra payer son voyage de chez lui au pays d'accueil, le logement dans le pays d'accueil et un accompagnement local. Voilà ce que permettent ces dispositifs. Mmh. Alors bien évidemment, on a une procédure de sélection des demandeurs d'emploi, candidats, qui nous sont envoyés donc par le conseiller. Donc je dis à vos auditeurs, si vous êtes intéressés sur le principe par ces dispositifs Tremplin pour l'emploi ou Bagage, eh bien vous demandez à votre conseiller référent en agence, de pouvoir prescrire ce type de dispositif. Et donc, on va, au regard du projet professionnel de la personne, leur proposer ces quelques mois de stage dans une entreprise du secteur marchand, dans une association, dans un laboratoire de recherche, dans un centre culturel. En fait, toute structure qui est en lien avec le profil professionnel et surtout l'objectif, le projet professionnel du demandeur d'emploi. J'en profite justement d'être à l'antenne pour dire que ce ne sont pas des dispositifs de perfectionnement linguistique. Il va y avoir un impact positif, ne serait-ce qu'avec l'immersion dans le pays, qui va obliger les gens à pouvoir se développer.
Et c'est toujours ça de gagner quand même quand on cherche un emploi, enfin quel que soit d'ailleurs le profil de la personne.
Tout à fait.
C'est toujours un atout, hein,
tout à fait.
Parler une langue étrangère.
Mais justement, à telle enseigne que on ne recherche pas des bilingues. Pour nos auditeurs qui se demanderaient, mais c'est quoi les conditions pour pouvoir bénéficier ? On ne recherche surtout pas de bilingues. Disons que pour celles et ceux qui connaissent un niveau A2 en langue, c'est-à-dire où on peut se présenter, on comprend quelques phrases basiques, ça suffit. On n'a pas besoin d'être diplômé, absolument pas. Et c'est multisectoriel, c'est-à-dire qu'on a fait partir avec notre prestataire qui s'appelle en l'occurrence Cercle de Qualité, qui est à la fois sur Tremplin pour l'emploi et sur Bagage. Des personnes qui sont dans la restauration, l'hôtellerie, qui sont des scientifiques, des laborantins, qui sont dans les cosmétiques, qui sont dans le marketing, la com, tous les secteurs d'activité, sauf principalement un qui est l'aéroportuaire pour des raisons de sécurité, où là on ne peut pas trouver de stage en tant que tel. Mais on a eu pas mal de personnes, de jeunes qui voulaient faire hôtesse de l'air ou steward. Et pour ce faire, donc on peut leur proposer des stages sur la relation client, qui est une des compétences les plus importantes de ce métier-là, de ces métiers-là, sachant qu'ils vont faire une école qui va les former techniquement au métier de steward ou d'hôtesse de l'air. Voilà, c'est principalement ça qu'on propose. Les logements, c'est les résidences universitaires, c'est logement en famille, c'est la colocation. Voilà, c'est ce genre d'hébergement-là. Et nous avons 24 pays à disposition.
Très bien. Bon, tu nous donneras peut-être la liste aussi après. Est-ce que les frais d'hébergement sont également pris en charge ?
Oui, c'est ce que je disais.
Ah oui, mais c'est incroyable. Enfin, c'est quand même... c'est assez alléchant. Enfin, je pense que même qu'il faut peut-être être vigilant quand on travaille à Pôle emploi, parce que, à France Travail, pardon. Parce qu'on aurait vite fait d'en profiter, de faire quelques jours en entreprise. Ça ne me plaît pas.
Ah,
on
non.
m'a payé le voyage. Je dois rembourser ou pas ?
C'est ça la question. France Travail se réserve le droit, effectivement, de demander tout ou partie du remboursement de l'action de mobilité si le contrat que nous avons, puisqu'il y a quand même un contrat d'engagement, à partir du moment où la personne, on ne force personne, donc à partir du moment où la personne souhaite candidater, lorsque l'hébergement, lorsque le stage est trouvé, elle va signer, cette personne, un contrat d'engagement avec nous et qui contractualise. Ces dispositifs-là, cette action de mobilité-là, et si effectivement il n'y a pas de cas de force majeure pour justifier, par exemple, un retour anticipé, eh bien, France Travail se réserve la possibilité, effectivement, de demander tout ou partie du remboursement qui aura été mobilisé par nous. Hein, puisqu'on je gère des bourses de mobilité sur Tremplin pour l'emploi, comme la région gère des bourses de mobilité sur bagages. Et donc, bien évidemment, si la personne, d'une manière ou d'une autre, ne respecte pas ses obligations par rapport à ses programmes, voilà.
Et imaginons que la personne ne fasse, entre guillemets, pas l'affaire dans l'entreprise ou l'association qu'elle a choisie. Enfin, qu'elle a choisie, en tout cas, où elle commence à exercer. Qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui se passe, c'est que on a donc le prestataire en France qui a son partenaire local dans le pays qui a été choisi. Parce que ce qui est très intéressant, ça il faut le dire aussi, on n'a pas de catalogue de stage. C'est-à-dire que lorsqu'on sélectionne, on demande aux demandeurs d'emploi, aux candidats, ce qu'ils veulent faire. On part de leurs souhaits à eux. Souhaits en termes de contenu de stage, de secteur d'activité, de durée et de pays. Alors, lors des sélections, on challenge, bien évidemment, puisqu'on est quand même dans une optique de pertinence et de conseil aussi des demandeurs, des candidats.
C'est pour tous les âges ?
Et c'est pour tous les âges. C'est pour tous les âges. Alors, bagages, c'est 18-30 ans. Et tremplin pour l'emploi, c'est à partir de 18 ans.
D'accord, mais à 47 ans, par exemple.
Oui, et j'encourage. Je suis un ardent militant de la mobilité qui n'a pas d'âge, parce qu'il y a effectivement cette idée reçue.
Oui, on dit pour les jeunes, il faut voyager.
C'est pour les jeunes, etc. Non, mais c'est très bien, d'ailleurs, évidemment.
Oui, bien sûr.
De la même manière que ça n'est pas réservé aux jeunes diplômés qui ont un master. D'ailleurs, les masters, c'est conditionné. Oui, c'est pas interdit, mais c'est conditionné parce qu'on a trop de master 2.
Oui, mais les pauvres, c'est très difficile aujourd'hui. Je sais de quoi je parle.
Mais du point de vue,
c'est très compliqué quand on a un master 2 de trouver certains emplois.
C'est la raison.
La communication, par exemple, parfois c'est un enfer.
C'est la raison pour laquelle on n'a pas interdit l'accès de ces dispositifs-là, mais que c'est assez conditionné. Par exemple, on va privilégier les master 2 qui ont fait leurs études par alternance et qui n'ont jamais eu de mobilité académique ou professionnelle à l'étranger avant. Tout simplement parce qu'on n'a pas 50 000 bourses de mobilité. Et que la philosophie d'Erasmus+, c'est vraiment j'allais presque dire ce qui était un slogan fort de Pôle emploi, qui était « faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin ». Et c'est vrai que des personnes qui sont pas ou peu diplômées, des personnes qui sont sur des territoires un peu enclavés, ce sont ces personnes-là qui sont quand même prioritaires.
Oui, bien sûr, parce que pour survivre, ils vont vraiment avoir plus de problèmes que la personne qui a un bac plus 1, qui peut toujours aller se débrouiller à faire restauration.
Et de manière générale, les Master 2 ont un accès privilégié à l'information sur la formation, sur ce qui peut exister.
Bien sûr.
Et c'est vrai, et j'encourage vraiment les personnes qui déjà ne savaient pas que France Travail pouvait avoir une offre de service sur l'international, ou bien qui estiment que ça n'est pas pour eux, parce que justement, ils pensent que c'est uniquement pour les jeunes, les super diplômés, les bilingues, qui ont de l'argent, etc. Tout ça est faux. à telle enseigne que, et on va peut-être en parler plus tard, nous avons, je suis en train de développer un atelier sur les représentations qu'on peut se faire de la mobilité, de manière à ce que cette mobilité soit vraiment une opportunité pour toutes et tous.
Ouais, alors je pose encore une dernière question, après on va pouvoir écouter un autre morceau sélectionné par Selecta Molpi.
Yes.
Qui sera ?
Ojos de lujo, si. On va en Espagne.
Voilà, mais pas pour faire du tourisme, vous l'avez compris. Oui, donc une question. En fait, quel est, enfin, parce que c'est quand même un certain projet hein, de partir faire un stage à l'étranger. Tu m'as fait perdre ma question maintenant. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai plein
c'est
dans ma
besace. C'est toi qui m'as interrogé, j'ai rien dit moi.
Donc, oui, non, mais par exemple, pour quelqu'un qui ne trouve pas de travail, ça peut être quand même, je me mets dans leur peau un petit peu, ça peut être, enfin, ils peuvent se dire, bon, bah, super, je vais avoir un logement gratuit pendant quelques semaines, quelques mois, ça va me dépanner, je vais mettre mon logement sur Airbnb en attendant, ça va me faire un petit revenu, bon, histoire de gagner un petit peu d'argent, voir ce côté-là seulement. Comment est-ce que vous les sélectionnez, en fait ? C'est pas une idée que je vous donne là, vos auditeurs. Hein.
Voilà.
Débrouillez-vous.
N'écoutez pas Lily.
Autrement, mais.
De toute façon, on vous reconnaîtra. Non, en fait,
après Airbnb n'est pas interdit. Après, en soi, c'est pas interdit.
Non, mais bien sûr. Non, mais
c'est effort d'aller à l'étranger quand même.
Ce qui compte, c'est effectivement le projet professionnel de la personne. Et donc. Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, moi, j'anime ce qu'on appelle des visioconférences tous les mois dans le cadre d'une modalité que France Travail a développée qui s'appelle les hashtags Mes événements emploi. Donc, ce sont des vidéoconférences qui sont sur plein de thématiques, dont celle-ci, les stages dans le cadre du programme Erasmus visant à développer les compétences des gens. Après, s'ils sont intéressés, donc ils se rapprochent de leur conseiller en disant « Moi, je veux candidater à Bagage ou bien à Tremplin pour l'emploi. » Après, le prestataire va leur envoyer un dossier de candidature, un petit dossier, parce que la sélection ne se fait pas sur dossier. C'est juste pour avoir un premier niveau d'information, pour savoir ce que les gens veulent faire, pourquoi ils veulent le faire, où ils veulent aller, etc. Et après, il y a une autre visioconférence co-animée par moi-même et le prestataire sur Tremplin, par la région, moi-même et le prestataire sur Bagage, où là, on va rentrer vraiment dans les modalités pratico-pratiques. Qu'est-ce que c'est ces dispositifs ? Qu'est-ce que ça n'est pas ? Pour que l'objectif étant que les candidats repartent avec toutes les réponses aux questions qu'ils peuvent se poser. Et quelques jours après, il y a les entretiens individuels en présentiel. Et c'est là où on va voir ensemble s'il y a une vraie plus-value par rapport au projet professionnel, si la personne a quand même un niveau de langue qui lui permette de ne pas aller au casse-pipe. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Et jusqu'à présent, ça fait des années qu'on fait ça, jusqu'à présent, on a plutôt... on a toujours un bilan à 6 mois et on se rend compte qu'en termes de retour à l'emploi, parce que bon, ça ne va pas t'étonner venant de France Travail, mais il y a quand même un petit objectif sur le retour à l'emploi. Au bout de 6 mois, il y a environ 10 points de plus par rapport à la moyenne nationale, disons, ou la moyenne générale.
10% de plus ?
10 points de plus de retour à l'emploi, c'est-à-dire que on est aux alentours de 60-65% de retour à l'emploi 6 mois après avoir fait Erasmus, donc Tremplin pour l'emploi ou bien Bagage. Et ça constitue environ 10 points de plus par rapport à la moyenne nationale des retours à l'emploi après 6 mois. Voilà.
D'accord, qui est de 55% en général.
C'est ça, aux alentours, de 55-57.
Et en fait, quelle est vraiment... Bon, j'enfonce des portes ouvertes, certes, mais bon, on est là pour ça. Hein. quel est vraiment l'intérêt de partir à l'étranger pour faire un stage ? Pourquoi ne pas faire un stage devant chez soi ? Avec l'espoir justement de pouvoir travailler dans cette même entreprise où on fait le stage. Pourquoi aller partir pour revenir ?
Mais je vais te le dire. Non, en fait, bon, il y a des modalités hein, qui permettent à des gens de pouvoir effectivement faire une période de mise en situation en milieu professionnel, par exemple en France, quitte après à ce que ça se transforme en recrutement, il y a des possibilités. Simplement, ce qu'on va chercher en proposant d'aller en Europe, c'est plusieurs choses. D'une part, c'est par exemple pour des personnes qui sont déjà, ont déjà plusieurs années d'expérience professionnelle dans leur secteur d'activité, eh bien, c'est d'aller dans des pays où dans leur secteur d'activité, on dit que l'état de l'art
est plus avancé.
Voilà. Ou bien complémentaire. Mmh. Et donc l'idée, c'est d'enrichir son CV en termes d'avantages comparatifs lorsqu'on revient dans son territoire, et ben de peut-être avoir plus de possibilités de se faire embaucher.
Faire de nouveaux cocktails, des cocktails.
Je vois que madame est... Hein?
On fait pas l'émission ensemble.
C'est l'heure de l'apéro là, qui arrive, donc je pense à nos auditeurs.
Je vois. Tu dis ça, mais effectivement, ce genre de profil, on les a, la mixologie, tout ça.
D'autres plats, par exemple.
Non, mais bien sûr. Ou en fait, d'autres pratiques professionnelles sur un même secteur d'activité. Des gens, par exemple, qui travaillent dans le textile, dans la mode. Le fait d'aller en Italie, ça peut être très intéressant. Le fait de... On a eu des gens qui ont comme projet professionnel de créer une librairie. On a des gens dans la cosmétique. On a en fait des personnes, et on leur demande, lorsqu'ils choisissent les pays, de nous dire pourquoi ils ont choisi les pays qu'ils ont choisis. Et souvent, on attend d'eux qui nous disent, justement, il y a une tradition professionnelle dans ces pays-là en termes de, entre guillemets, secteur d'excellence. Si je vais dans ce pays-là, si je souhaite aller dans ce pays-là, c'est parce que je sais que je vais pouvoir augmenter, enrichir mes compétences dans ce secteur. Après, tu as des gens qui ne sont pas mobiles. Tu as des gens qui...
Ceux qui ont une famille, par exemple, comment est-ce qu'on fait quand on est, je ne sais pas, père de famille, mère de famille, au chômage, depuis un an? On a des enfants. Est-ce qu'on peut ramener sa famille avec?
C'est vraiment une action de mobilité personnelle, individuelle à la personne. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes sont dominants dans les bénéficiaires. C'est parce qu'il y a effectivement des charges de famille. Après, il y a eu des personnes qui étaient en charge de famille, qui se sont arrangées, parce que c'est un projet... entre guillemets, c'est un projet de vie. Et c'est vrai que les personnes s'arrangent parce qu'elles ont partagé sur cette idée que ça pouvait être une vraie plus-value pour la personne. Et donc, elles s'arrangent en amont et la personne ensuite candidate. Les personnes qui, parfois, ont un âge certain, les personnes qui ne sont pas diplômées, les personnes qui cherchent un travail depuis des années à 5 km autour de chez eux, ces personnes-là sont aussi les bienvenues dans le cadre de ces dispositifs. Mmh. Pourquoi ? Parce que on va leur démontrer, mais par eux-mêmes, qu'ils sont autonomes, qu'ils sont adaptables. Et donc, l'idée après, c'est qu'à leur retour, c'est plus à 5 km autour de chez eux qu'ils trouveront du boulot ou qu'ils vont chercher du boulot. C'est peut-être à 20 km. C'est peut-être dans un autre département de leur territoire, de la région. C'est peut-être une autre région, France. C'est vraiment, l'idée, c'est de travailler sur les compétences personnelles via ces séjours, parce qu'ils sont encadrés, ces séjours, de A à Z. C'est-à-dire de chez eux, par exemple, je prends quelqu'un qui sera à Aiguillon, qui habitera à Aiguillon, et qui devrait partir de Bordeaux pour aller en République tchèque.
Alors Aiguillon, précisons pour nos auditeurs, Aiguillon se trouve...
C'est l'ex-Aquitaine.
Dans l'Aquitaine,
c'est un territoire donc une petite ville de la région
du 33,
d'accord, et qui est en fait, mais on pourrait prendre
Aiguillon 47, je crois,
47, pardon, oui, je dis 33 moi, 47, pardon, merci monsieur. Et donc en fait, toute personne qui doit partir par Bordeaux, par des grandes agglomérations, entre guillemets, on leur finance le transport de chez eux, par exemple d'Aiguillon jusqu'à Bordeaux, et évidemment de Bordeaux au pays d'accueil.
Ouais.
Tout ça, c'est pris en charge.
Tout est pris en charge, ça, ouais, voilà. On a bien compris.
Et ça, ça permet vraiment à ces personnes-là de pouvoir avoir un vrai levier pour mieux se repositionner sur le marché du travail.
Après, quand tu dis on les accompagne, bon, on leur paye ces transports-là. Est-ce qu'il y a encore une personne en plus qui vient avec eux pour leur servir de chaperon?
Peut-être Laurent, des fois, il les accompagne. Non, tu ne vas pas les visiter. Non,
même pas, tu vois, c'est une mauvaise langue. Même pas. Simplement,
non, mais bon.
Simplement, après... Non, c'est pas de l'assistanat. C'est, sinon, ça
après, écoutez la radio, prenez un livre, regardez par la fenêtre, il y a plein de, parlez aux gens, il y a plein de choses aussi pour rendre le voyage agréable.
C'est comme on dit, comme je dis souvent, c'est eux-mêmes qui feront la qualité de leur séjour.
C'est vrai qu'il
faut, alors on n'oblige personne, mais à partir du moment où ils candidatent, il faut, vous auditeurs, que vous compreniez que c'est une vraie opportunité. Qui se renouvellera pas tout le temps, c'est-à-dire qu'on a droit qu'à une bourse de mobilité. Alors il y a année après année, on a ces programmes-là. Et comme j'organise des...
Mais on peut bénéficier plusieurs fois de ce...
Non, justement. Justement, c'est pour ça qu'il faut le faire au bon
moment. Il
faut bien
réussir son coup. Alors, choisissez bien votre endroit.
Mais c'est pour
déjà
ça
déjà, soyez sélectionnés.
Voilà, et c'est pour ça que dans la sélection qu'on fait, il ne s'agit pas d'écrémer. C'est pas piégeant, c'est pas du tout. C'est justement pour optimiser la candidature. Et par exemple, il y a des gens pour lesquels on leur dit que c'est prématuré. Et comme j'organise pour Tremplin pour l'emploi et que la région organise pour Bagages des sessions régulièrement, c'est-à-dire en gros toutes les six semaines, c'est pas un one-shot annuel, la sélection, c'est toutes les six semaines, donc les personnes peuvent recandidater un peu plus tard. À chaque fois, on leur dit, après la sélection, quelques jours après, on leur dit si on les retient. Et donc, à partir de ce moment-là, leur dossier est traité. Sinon, on leur dit pourquoi ils ne sont pas retenus. On leur fait des préconisations. Et bien évidemment, ils peuvent, s'ils le souhaitent, recandidater à une session ultérieure. Donc j'ai parlé des gens qui n'étaient pas mobiles, j'ai parlé des gens qui avaient une expérience professionnelle marquée dans leur secteur d'activité, les jeunes. Souvent les jeunes se voient opposer leur manque d'expérience, et donc ça c'est un phénomène un peu de serpent qui se mord la queue, parce qu'on leur reproche leur manque d'expérience, mais comme on ne leur donne pas la possibilité de... Donc ces stages-là, qui sont des stages quand même de plusieurs mois, sur des missions opérationnelles, ce n'est pas des stages d'observation comme ça, ça leur permet d'avoir cette fameuse première expérience professionnelle, qui plus est dans un autre pays. Donc, quand ils reviennent, ils peuvent montrer ça. Ils peuvent montrer ça. Et c'est important.
Effectivement.
Est-ce que je vais passer mon morceau de Rose et Bourreau que j'ai annoncé? Et après, on finit. Il restera 3 minutes.
Et Aymeric Trépine, alors,
Sinon, on fait... Ouais, c'est parti.
Non, vas-y.
Allez,
vas-y.
C'est parti, Rose et Bourreau, Ventilador.
Ya veré, mochila que llevamos va cargadita de piedra. El abismo ya no viene y está en mala condición. Solo nos queda la rumba y una buena bulería, un bailecito por tango y el cante del camarón. Ya veré, ya veré, mamá. Pero suena la rumba, pero suena la ya. Ya veré,
voici pour les trois dernières minutes de l'instant VIP. Attention, ça va aller très très vite. Nous sommes toujours avec Laurent Eliasevitch, donc qui travaille à pour la section internationale de France Travail, et qui nous parle là aujourd'hui de Erasmus+. Enfin, on est sur le point de terminer l'émission.
Vous pourrez retrouver les podcasts en suivant sur le site d'Odo Radio.
Voilà. Donc, on était en train de parler justement des sélections. Aujourd'hui, combien de gens ont déjà profité de ce dispositif ?
Oh, bah plusieurs centaines de personnes. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des belles histoires là-dessus, des personnes qui étaient demandeuses d'emploi depuis ce qu'on appelle demandeuses d'emploi longue durée, DELD, encore un sigle, et qui ont vraiment eu, grâce à ce type de programme, ça les a boostés ça les a redynamisés. Et c'est vrai que ça a pu permettre à des personnes de pouvoir se reclasser vraiment dans ce qu'ils avaient pu souhaiter comme type de projet professionnel. On a eu aussi des projets professionnels très, très spécifiques, très particuliers. On a eu un fauconnier
qui est parti
en Italie parce qu'il avait repéré un artisan. En tout cas, un fauconnier, évidemment un professionnel, sur des métiers donc qui se perdaient. Et il a pu... cette personne-là, italienne, lui a transmis le savoir-faire qu'il avait. Et il a pu développer son activité également. C'est des choses, voilà, c'est très particulier. Mais on a comme ça des belles histoires. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup... les personnes à pouvoir candidater,
même plusieurs fois, hein, on disait.
Oui, alors candidater plusieurs fois, mais par contre avec une seule bourse de mobilité. On ne peut pas partir.
Oui, on gagne qu'une fois.
Voilà, on gagne qu'une fois.
Il y a des endroits comme ça où on peut retrouver des témoignages de...
Tout à fait. Alors, il y a sur francetravail.fr, sur la partie Nouvelle-Aquitaine, des témoignages vidéo. Sur bagages comme sur tremplin pour l'emploi. Et notre prestataire Cercle de Qualité, il suffit d'aller sur son Facebook et sur son Instagram pour avoir environ une centaine de témoignages, et notamment de témoignages de stages superbes dans des pays comme la Bulgarie, comme la Roumanie, comme la République de Macédoine. Tous ces pays-là qui, en général, ne sont pas trop demandés. Et pourtant, c'est des vraies ressources en termes de stage et d'épanouissement et personnel et professionnel.
Mmh. Ouais, ceux qui veulent travailler dans le yaourt, aller en Bulgarie, non, c'est un peu cliché ce que tu dis, mais il y a plein de choses, effectivement.
Si tu permets, Lily, ouais. On parle de la Bulgarie. Mmh. Il y a certes le yaourt, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, on a fait partir quelqu'un, une jeune femme qui a travaillé pour une association des femmes réfugiées.
Mmh. Dans le social, donc.
Dans le social, en Bulgarie, et qui a vraiment fait un magnifique travail par rapport à ça. Donc, d'ailleurs, il l'aurait volontiers embauchée. Bon, elle voulait revenir en France.
Parmi les siens, peut-être. Oui,
voilà,
après, c'est
mais elle a eu l'occasion de faire vraiment de belles missions.
Oui, on imagine qu'il y en a qui restent après sur place, qui finissent par s'installer dans le pays.
Ou des personnes qui ont pu, qui soit étaient graphistes, sont graphistes, ont travaillé dans à la radio. On a eu plusieurs personnes qui ont travaillé dans un studio de radio, notamment en Allemagne. On a eu un pianiste qui est allé en Espagne et a développé un certain nombre de savoir-faire techniques. C'est vraiment quelque chose de très important. Et j'invite vos auditeurs à se rendre compte via ces témoignages sur l'Instagram, sur le Facebook de Cercle de Qualité, sur francetravail.fr, Mobilité Internationale, Nouvelle-Aquitaine. Vraiment, des belles choses.
Ok. Écoute, merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage. C'était très enrichissant, je pense, pour nos auditeurs. N'hésitez pas à en profiter. Et si vous avez des questions, vous savez où nous contacter. L'Instant VIP, c'est sur Facebook. Et puis, Laurent vous a donné maintenant tous les moyens d'avoir accès à ces dispositifs. On doit déjà rendre l'antenne, hein, surtout. Donc,
et on se retrouve dans 15 jours pour...
parler de Sound System.
Exactement, pour une soirée qui aura lieu un peu plus tard.
On va reprendre un peu la musique. Allez, ciao, ciao, bisous,
ciao,
on vous embrasse.
Bonne semaine à tous.
Au revoir.